Chapitre 7, où l'on verra qu'Isaac trouve une magnifique occasion de prêter son argent à plus de 1800%. À la voix de Benzouf, la porte du capot d'arrière s'ouvrit et Isaac Akabut se montra à mi-corps. « Qui va là ? » cria-t-il tout d'abord. « Que me veut-on ? Il n'y a personne. Je n'ai rien à prêter ni à vendre. » Telles furent les hospitalières paroles qui accueillirent les visiteurs. « Tout beau, maître Akabut, répondit le capitaine Servadac d'une voix impérieuse. « Est-ce que vous nous prenez pour des voleurs ?»« Ah, c'est vous, monsieur le gouverneur général, » dit celui-ci sans sortir de sa cabine. « Lui-même, » riposta Benzouf, qui était monté sur le pont de la Tartane. « Tu dois te trouver honoré de sa visite. Allons, hors de cette niche !» Isaac Akabut s'était décidé à se montrer tout entier par l'ouverture du capot, dont il tenait la porte à demi fermée, de manière à pouvoir la pousser rapidement en cas de danger. « Que voulez-vous » demanda-t-il. « Causer un instant avec vous, maître Isaac, » répondit le capitaine. « Mais le froid étant un peu vif, vous ne nous refuserez pas un quart d'heure d'hospitalité dans votre cabine ?»« Quoi, vous voulez entrer ?» s'écria Isaac, qui ne chercha point à dissimuler à quel point cette visite lui semblait suspecte. « Nous le voulons, » répondit Hector Servadac en grimpant les marches, suivi de ses compagnons. « Je n'ai rien à vous offrir, » dit Isaac d'une voix piteuse. « Je ne suis qu'un pauvre homme. » « Voilà les litanies qui recommencent, » riposta Benzouf. « Allons, Elias, fais place. » Et Benzouf, empoignant Akabut au collet, l'écarta sans plus de cérémonie. Puis il ouvrit la porte du capot. Au moment d'entrer, « Écoutez bien ceci, Akabut, » dit le capitaine Servadac. « Nous ne venons pas nous emparer de votre bien malgré vous. Je le répète, le jour où l'intérêt commun exigera que nous disposions de la cargaison de la Tartane, je n'hésiterai pas à le faire, c'est-à-dire à vous exproprier pour cause d'utilité publique, en vous payant les marchandises au prix courant d'Europe. » « Les prix courants d'Europe, » murmura Isaac Akabut entre ses dents. « Non, mais au prix courant de Gallia, et c'est moi qui les établirai. » Cependant, Hector Servadac et ses compagnons étaient descendus dans la cabine de la Hansa. Ce n'était qu'un étroit logement, la plus grande place possible ayant été réservée à la cargaison. Un petit poêle de fonte, où deux morceaux de charbon essayaient de ne pas brûler, se dressait dans un coin vis-à-vis du cadre qui servait de lit. Une armoire, dont la porte était soigneusement fermée à clé, occupait le fond de ce réduit. Quelques escabeaux, une table de sapin d'une propreté douteuse, et en fait d'ustensiles de cuisine, le strict nécessaire. L'ameublement, on le voit, était peu confortable, mais digne du propriétaire de la Hansa. Le premier soin de Benzouf, une fois descendu dans la cabine, et après que le juif en eut refermé la porte, fut de jeter dans le poêle quelques morceaux de charbon, précaution que justifiait la basse température du lieu. De là, récriminations et gémissements d'Isaac Akabut, qui, plutôt que de prodiguer son combustible, eût brûlé ses propres os s'il en avait eu de rechange. Mais on ne l'écouta pas. Benzouf resta de garde près du poêle, dont il activa la combustion par une ventilation intelligente. Puis, les visiteurs s'étant assis tant bien que mal, laissèrent au capitaine Servadac le soin de faire connaître le but de leur visite. Isaac Akabut, debout dans un coin, ses mains soudées l'une contre l'autre, ressemblait à un patient auquel on lit sa sentence. « Maître Isaac, dit alors le capitaine Servadac, nous sommes venus ici tout simplement pour vous demander un service. »« Un service ? Dans notre intérêt commun. Mais je n'ai pas d'intérêt commun. » « Écoutez donc et ne vous plaignez pas, Akabut, il n'est pas question de vous écorcher. »« Me demander un service à moi, un pauvre homme !» s'écria le juif en se lamentant. « Voici ce dont il s'agit, » répondit Hector Servadac, qui feignit de ne pas l'avoir entendu. À la solennité de son préambule, il s'exposait à faire croire à Isaac Hakkabut qu'on allait lui réclamer sa fortune entière. « En un mot, maître Isaac, répondit le capitaine Servadac, nous aurions besoin d'un peson. Pouvez-vous nous prêter un peson ?»« Un peson ! » s'écria Isaac, comme si l'on eût demandé à lui emprunter plusieurs milliers de francs. « Vous dites un peson ?»« Oui, un peson à peser !» répondit Palmyrin Rosette, que tant de formalités commençaient à impatienter outre mesure. « N'avez-vous pas un peson ? » reprit le lieutenant Procope. « Il en a un, dit Ben Zoof. « En effet, oui, je crois, répondit Isaac Hakkabut, qui ne voulait pas s'avancer. « Eh bien, maître Isaac, voulez-vous avoir l'extrême obligeance de nous prêter votre peson ?»« Prêter ! » s'écria l'usurier. « Monsieur le gouverneur, vous me demandez de prêter ?»« Pour un jour, répliqua le professeur, pour un jour, Isaac, on vous le rendra, votre peson !»« Mais c'est un instrument bien délicat, mon bon monsieur, répondit Isaac Hakkabut. Le ressort peut se casser par ces grands froids. »« Ah, l'animal ! » s'écria Palmyrin Rosette. « Et puis, il s'agit peut-être de peser quelque chose de bien lourd ?»« Crois-tu donc, Ephraïm, dit Ben Zoof, que nous voulons peser une montagne ?»« Mieux qu'une montagne, répondit Palmyrin Rosette, nous allons peser Galia !»« Miséricorde ! » s'écria Isaac, dont les fausses doléances tendaient vers un but trop visible. Le capitaine Servadac intervint de nouveau. « Maître Hakkabut, dit-il, nous avons besoin d'un peson pour peser un poids d'un kilogramme tout au plus. »« Un kilogramme, Dieu du ciel !»« Et encore, ce poids pèsera-t-il sensiblement moins, en conséquence de la moindre attraction de Galia ?» « Ainsi donc, vous n'avez rien à craindre pour votre peson. »«
Sans doute, monsieur le gouverneur, répondit Isaac, mais prêtez, prêtez. »«
Puisque vous ne voulez pas prêter, dit alors le comte Timachef, voulez-vous vendre ?»«
Vendre, s'écria Isaac Hakkabut, vendre mon peson. Mais quand je l'aurai vendu, comment pourrais-je peser ma marchandise ? Je n'ai pas de balance. » Je n'ai que ce pauvre petit instrument, bien délicat, bien juste, et l'on veut m'en dépouiller. »
Ben Zoof ne comprenait guère que son capitaine n'étranglât pas sur l'heure le bonhomme qui lui tenait tête. Mais Hector Servadac s'amusait, il faut bien en convenir, à épuiser vis-à-vis d'Isaac toutes les formes possibles de persuasion. « Allons, maître Isaac, dit-il, sans se fâcher en aucune manière. « Je vois bien que vous ne consentirez pas à prêter ce peson. »«
Hélas, le puis-je, monsieur le gouverneur ?»«
Ni à le vendre. »«
Le vendre, oh, jamais !»«
Eh bien, voulez-vous le louer ?» Les yeux d'Isaac Hakkabut s'allumèrent comme des braises. « Vous répondriez de tout accident ? » demanda-t-il assez vivement. «
Oui. »
« Vous déposeriez entre mes mains un nantissement qui m'appartiendrait en cas de malheur. »
« Oui.
Combien ?
100 francs pour un instrument qui en vaut 20. Est-ce suffisant ?
À peine, monsieur le gouverneur, à peine, car enfin ce peson est le seul qu'il y ait dans notre nouveau monde. Mais enfin, ajouta-t-il, ces 100 francs seraient en or ?
En or.
Et vous voudriez me louer ce peson qui m'est si nécessaire ? Vous voudriez me le louer pour un jour ?
Pour un jour.
Et le prix de la location serait de 20 francs, répondit le comte Timachef. Cela vous convient-il ?
Hélas, je ne suis pas le plus fort, murmura Isaac Hakkabut en joignant les mains. Il faut bien savoir se résigner.
Le marché était conclu, et bien évidemment à l'extrême satisfaction d'Isaac. 20 francs de location, 100 francs de cautionnement, et le tout en or français ou russe. Ah, ce n'est pas Isaac Hakkabut qui eût vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, ou bien ces lentilles auraient été des perles. Le trafiquant, après avoir jeté un regard soupçonneux autour de lui, quitta la cabine pour aller chercher le peson.
« Quel homme ! » dit le comte Timachef.
« Oui, répondit Hector Servadac, dans son genre, il est plutôt réussi. » Presque aussitôt, Isaac Hakkabut revint, rapportant l'instrument,
précieusement serré sous son bras. C'était un peson à ressort, muni d'un crochet auquel on suspendait l'objet à peser. Une aiguille, se mouvant sur un cercle gradué, marquait le poids. Ainsi donc, comme l'avait fait observer Palmyrin Rosette, les degrés indiqués par cet instrument étaient indépendants de la pesanteur, quelle qu'elle fût. Fait pour les pesages terrestres, il eût marqué sur Terre un kilogramme pour tout objet pesant un kilogramme. Pour ce même objet, qu'indiquerait-il sur Galia? C'est ce que l'on verrait plus tard. 120 francs en or furent comptés à Isaac, dont les mains se refermèrent sur le précieux métal, comme sur le couvercle d'un coffret. Le peson fut remis à Ben Zouf, et les visiteurs de la Hansa se disposèrent à quitter aussitôt la cabine. Mais à ce moment, le professeur se rappela qu'il lui manquait encore un objet indispensable pour ses opérations. Un peson ne lui servait à rien s'il ne pouvait y suspendre un bloc de cette matière galienne dont les dimensions auraient été exactement mesurées, un bloc formant par exemple un décimètre cube. « Eh, ce n'est pas tout !» dit Palmyrin Rosette en s'arrêtant. « Il faut aussi nous prêter... » Isaac Hakkabut tressaillit. « Il faut aussi nous prêter un mètre et un poids d'un kilogramme. » « Ah, pour cela, mon bon monsieur, répondit Isaac, ce n'est pas possible, et je le regrette bien. J'aurais été si heureux de pouvoir vous obliger. » Et cette fois, Isaac Hakkabut disait deux fois vrai, en affirmant qu'il n'y avait à bord ni mètre ni poids, et qu'il regrettait de ne pas en avoir. Il eût encore fait là une excellente affaire. Palmyrin Rosette, extrêmement contrarié, regardait ses compagnons comme s'il eût voulu les rendre responsables du fait. Et il avait lieu d'être très désappointé, car, faute de cet engin de mesurage, il ne voyait pas comment il s'y prendrait pour obtenir un résultat satisfaisant. « Il faudra bien pourtant que je m'en tire sans cela, » murmura-t-il en se grattant la tête. Et il remonta vivement l'échelle du capot. Ses compagnons le suivirent, mais il n'était pas encore sur le pont de la Tartane qu'un son argentin se faisait entendre dans la cabine. C'était Isaac Hakkabut qui serrait précieusement son or dans un des tiroirs de l'armoire. Au bruit, le professeur s'était vivement retourné, et il se précipita vers l'échelle que tous redescendirent non moins précipitamment, sans rien comprendre aux allures de Palmyrin Rosette. « Vous avez des pièces d'argent ? » s'écria-t-il en saisissant Isaac par la manche de sa vieille houppelande. « Moi, de l'argent ? » répondit Isaac Hakkabut, pâle comme s'il se fût trouvé en présence d'un voleur. « Oui, des pièces d'argent, » reprit le professeur avec une extrême vivacité. « Ce sont des pièces françaises, des pièces de 5 francs ?»« Oui, non, » répondit Isaac, ne sachant plus ce qu'il disait. Mais le professeur s'était penché vers le tiroir qu'Isaac Hakkabut essayait en vain de fermer. Le capitaine Servadac, le comte Timachef, le lieutenant Procope, n'y comprenant rien, mais décidés à donner raison au professeur, laissaient la scène se dérouler sans y prendre part. « Ces pièces françaises, il me les faut !» s'écria Palmyrin Rosette. « Jamais !» s'écria à son tour le trafiquant, auquel il semblait qu'on voulût arracher les entrailles. « Il me les faut, vous dis-je, et je les aurai !»« On me tuera plutôt !» hurla Isaac Hakkabut. Le capitaine Servadac jugea à propos d'intervenir alors. « Mon cher professeur, dit-il en souriant, laissez-moi arranger cette affaire comme l'autre. » « Ah, monsieur le gouverneur !» s'écria Isaac Hakkabut tout défait. « Protégez-moi, protégez mon bien !»« Silence, maître Isaac !» répondit le capitaine Servadac. Puis, se retournant vers Palmyrin Rosette, « Vous avez besoin, lui demanda-t-il, d'un certain nombre de pièces de 5 francs pour vos opérations ?»« Oui, répondit le professeur, il m'en faut d'abord 40. »« 200 francs !» murmura le banquier. « Et de plus, ajouta le professeur, 10 pièces de 2 francs et 20 pièces de 50 centimes. »« 30 francs !» dit une voix plaintive. « En tout, 230 francs !» reprit Hector Servadac. « Oui, 230 francs !» répondit Palmyrin Rosette. « Bien, dit le capitaine Servadac. S'adressant alors au comte Timachef, « Monsieur le comte, dit-il, auriez-vous encore de quoi nantir Isaac pour garantir l'emprunt forcé que je vais lui faire ?»«
Ma bourse est à votre disposition, capitaine, répondit le comte Timachef, mais je n'ai sur moi que des roubles papier. »
« Pas de papier, pas de papier !» s'écria Isaac Akabut. « Le papier n'a pas cours sur Galia. »«
Est-ce que l'argent en a davantage ?» répondit froidement le comte Timachef.
« Maître Isaac, dit alors le capitaine Servadac, vos jérémiades m'ont trouvé jusqu'ici d'assez belle humeur. Mais, croyez-moi, n'abusez pas plus longtemps de ma patience. De bonne ou mauvaise grâce, vous allez nous remettre ces 230 francs. »
« Au voleur !» cria Isaac.
Mais il ne put continuer, car la vigoureuse main de Ben Zouf lui pressait déjà la gorge.
« Laisse-le, Ben Zouf, dit le capitaine, laisse-le. Il va s'exécuter de lui-même.
« Jamais, jamais !»«
Quel intérêt demandez-vous, maître Isaac, pour nous prêter ces 230 francs ?»«
Un prêt, ce n'est qu'un prêt !»
s'écria Isaac Akabut, dont toute la face rayonna en un instant.
« Oui, un simple prêt. Quel intérêt exigez-vous ?»«
Ah, monsieur le gouverneur général, répondit doucereusement le prêteur, l'argent est bien difficile à gagner, et surtout, il est bien rare aujourd'hui sur Galia. »
Trêve à ces ineptes observations, que demandez-vous ? Reprit Hector Servadac.
« Eh bien, monsieur le gouverneur, répondit Isaac Akabut, il me semble que 10 francs d'intérêt... »
Par jour ?
Sans doute par jour.
Il n'avait pas achevé sa phrase que le comte Timachef jetait sur la table quelques roubles. Isaac s'en saisit et se mit à compter les billets avec une remarquable prestesse. Bien que ce ne fût que du papier, le nantissement devait satisfaire le plus rapace des usuriers. Les pièces françaises, réclamées par le professeur, lui furent immédiatement remises. Et il les empocha avec une évidente satisfaction. Quant à Isaac, il venait tout simplement de placer ses fonds à plus de 1800%. Décidément, s'il continuait à prêter à ce taux, il ferait encore plus rapidement fortune sur Galia qu'il n'eût fait sur Terre. Quelques instants après, le capitaine Servadac et ses compagnons avaient quitté la tartane, et Palmyrin Rosette s'écriait
« Messieurs, ce ne sont pas 230 francs que j'emporte, c'est de quoi faire exactement 1 kilogramme et 1 mètre !»